Bonsoir. Mon nom est Catherine Doré et il me fait plaisir de vous accueillir à l'émission La Voix de la librairie, enregistrée à la librairie Saint-Jean-Baptiste située au 565 rue Saint-Jean à Québec. Alors, au programme aujourd'hui, on va avoir d'abord le vernissage de Adam, ensuite la chronique de Mylène qui nous parlera de deux maisons d'édition pas banales, une entrevue avec Yolaine qui présentera les soirées de contes des amis imaginaires, et en deuxième partie, nous vous présenterons le premier épisode de la série La littérature pour comprendre le monde, en collaboration avec Huguette. Enfin, David lira un texte de Stig Dagerman. Mais d'abord, j'accueille Adam. Bonsoir, Adam.
Bonsoir.
Adam, tu viens tout juste de procéder à ton vernissage.
Oui.
Ça s'est bien passé?
Oui, j'ai eu beaucoup plus de gens présents que je m'y attendais. Ça a été un succès, tant qu'à moi.
C'est merveilleux. Ça,
ouais.
C'est ton premier vernissage?
Oui, en effet. La première fois que je faisais ça, j'avais un petit stress au départ, là, mais là, tout s'est bien passé, on dirait bien. Là.
Et toi, tu fais de la photo.
Mm-hmm.
Alors, évidemment, les auditeurs ne peuvent pas les voir, mais on va les décrire un petit peu. C'est des photos du quotidien?
Oui, c'est souvent des paysages urbains, des scènes de ma vie. Moi, j'aime beaucoup me promener à travers la ville, puis souvent, je vais voir des choses que je vais trouver soit visuellement intéressantes ou juste... Des endroits qui vont avoir représenté quelque chose pour moi par le passé, le fait de souvent y être retourné pour faire du skate, par exemple, ou juste passer du temps avec des amis, puis qui ont beaucoup qui a beaucoup de valeur sentimentale rattachée à ces endroits-là. Puis le fait de pouvoir les représenter en images, ça, je trouve ça intéressant.
Et donc, tu es quelqu'un qui fait du skate?
Oui.
OK, parce qu'on en voit un petit peu aussi sur tes photos.
Oui, c'est surtout mes amis qui sont dessus. Là. J'en ai pas de moi, là, mais oui, ça fait partie présente dans ma vie. Là.
J'ai remarqué aussi que tes photos étaient en noir et blanc.
Mm-hmm.
Pourquoi?
J'ai l'impression, je sais pas, j'ai toujours été plus attiré vers les images en noir et blanc. J'ai l'impression que ça donne un ton plus sobre et plus dramatique. Ça met plus en valeur ce que j'essaie de représenter aussi.
Ça fait longtemps que tu fais de la photo?
Ça va faire 3 ou 4 ans là, que j'en fais, oui.
Et qu'est-ce qui t'a amené à faire de la photo?
Au départ, c'était un de mes amis qui s'était acheté un appareil photo. Puis on avait commencé à zigonner dessus pour des prises de skate et tout. Puis j'ai remarqué que ça me venait un peu naturellement de trouver vraiment qu'est-ce que la personne voulait que je représente. Puis après ça, je me suis dit, tu sais, si les gens sont contents de ce que je fais, peut-être que je suis capable de faire des choses que moi-même, je vais être content de faire. Alors j'ai travaillé un petit peu avec ça. Puis éventuellement, j'ai réussi à trouver... vraiment comment fonctionnait l'appareil, puis à partir de là, parce que c'était assez compliqué au départ, là.
Okay.
Mais c'est ça, une fois que j'ai vraiment réussi à découvrir le potentiel de l'appareil, là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire avec ça, et j'ai eu la piqûre, comme on dit, là. J'ai réussi à trouver une manière de représenter les choses que je trouvais belles dans la vie pour que... Que les gens les voient comme moi je le vois un peu.
Bon, mais en tout cas, on te souhaite bonne chance. Moi, ce que je vois me plaît beaucoup.
Merci.
Alors, j'espère que ça va plaire aussi aux gens. Tes toiles sont exposées ici, tes photos sont exposées ici jusqu'à...
Ça devrait durer 2 mois, jusqu'à la fin du mois de février.
Bon, ben écoute, je te remercie beaucoup pour l'entrevue. Ça, je te souhaite bonne chance.
Merci beaucoup.
On va faire une petite pause musicale. On va écouter la pièce « White Winter Hymnal » de Fleet Foxes et nous vous revenons avec Mylène.
I was following the eye, 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 was following the eye to keep their little heads from falling in the snow. And I turn around and there you go. And Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in summertime.
C'était la pièce White Winter Hymnal de Fleet Foxes. Bonsoir, Mylène.
Bonsoir, Catherine.
Alors, Mylène, tu viens nous présenter une chronique. C'est une chronique que tu vas normalement venir nous faire tous les mois. Tu vas nous parler des livres, de milieu de l'édition. Toi-même, tu as été libraire pendant quelques années?
Oui, bien, à peu près 2 ans, dans le fond, dans l'usager puis dans le neuf aussi. Là.
Donc, tu es vraiment une amoureuse des livres.
Oui, bien, moi, je me considère plus comme une lectrice que comme une littéraire. Je lis vraiment pour le plaisir. Puis, j'essaie de... Un de mes plus grands plaisirs, c'est de matcher des livres, si on veut, de trouver toujours le bon livre pour la bonne personne. Donc, puis même si aujourd'hui je suis plus libraire, je continue de lire beaucoup, beaucoup, puis de m'informer, me tenir au courant des nouveautés, puis de ce qui se fait dans la littérature québécoise, mais aussi dans la littérature étrangère.
Et aujourd'hui, tu viens nous parler de 2 maisons d'édition.
Oui, en fait, c'est 2 maisons d'édition que j'ai découvertes justement en étant libraire, qui sont pas très... qui sont pas très connus, que moi j'aime beaucoup. Je suis pas une collectionneuse de livres, j'ai pas tendance à acheter des romans seulement pour l'édition, mais ces livres-là ont tellement une belle facture que ça me dérange pas de payer. J'aime l'objet aussi, là. Donc, les deux maisons d'édition, en fait, il y en a une, c'est Stock. C'est pas la maison d'édition en tant que telle, mais c'est la collection, la Cosmopolite. Dans le fond, Stock, c'est une maison d'édition qui existe depuis 1708.
Oh.
Donc, c'est quand même des vétérans, si on veut, dans le milieu de l'édition française. Et la collection La Cosmopolite, c'est une collection qui édite, dans le fond, de la littérature étrangère, qui a été créée à la fin du 19e siècle. Donc, sont assez reconnaissables. On les voit surtout dans l'usager. Ils sont roses, en fait. C'est des romans roses. Ça n'a rien à voir avec, avec la littérature rose qui est la littérature gay. Là. c'est vraiment c'est la facture des livres qui est comme ça. Puis dans le fond, cette maison d'édition-là, c'est toujours proposé de faire connaître au public français puis francophone, la littérature étrangère. C'est eux qui ont publié, entre autres, des grands de la littérature comme Stefan Zweig, Virginia Woolf, Herman Hesse, Yasushi Inoue, Henry Miller. Donc, puis ils vont pousser aussi des jeunes auteurs à l'étranger, tout ça, fait que ça donne quand même... puis ils comptent, depuis le temps, ils comptent une 20aine de Nobel dans leurs écrivains. Wow. Là, fait que c'est quand même... c'est quand même bon, des Nobel puis des Nobelisables aussi.
Et pourquoi
aussi,
ça s'appelle Continental?
C'est la Cosmopolite.
Cosmopolite.
J'ai pas réussi à trouver l'information, mais je sais pas si au départ c'était quelque chose qui s'adressait aux femmes, parce que les livres sont roses et que ça s'appelle pas le Cosmopolite ou Cosmopolite, mais vraiment la Cosmopolite. Donc, je sais pas si c'était pour les lectrices.
Chercher un lectorat féminin.
Un lectorat féminin, mais intéressé par la littérature étrangère, dans le fond. Là. Je sais que, par exemple, les journaux d'Anaïs Nin vont être publiés. Tu sais, y a quand même beaucoup d'écrits féministes aussi. Est-ce que c'était ça à la base? Je pense que oui, quand même, dans une certaine mesure. Mais c'est ça, aujourd'hui, ils n'ont pas changé... maintenant, les romans sont roses et bleu marin, donc c'est moins sexiste peut-être, mais c'est ça. Puis moi, cette collection-là, je l'ai découvert dans les dernières années. Il y a Purge de Sophie Oksanen qui a gagné le prix féminin en 2010, qui a eu vraiment un succès fulgurant à l'international. Et il y a Nancy Houston qui en a vraiment bien parlé, qui a dit « Vous n'êtes pas de vrais lecteurs si vous n'avez pas lu ce roman-là. » Donc, rien de mieux pour faire vendre un livre que ça. Puis, c'est ça, Sophie Oksanen. Donc, ça a vraiment redonné un souffle à cette collection-là. C'est ça. Puis c'est un très bon roman en passant. Là, c'est assez dur, ça se passe...
Puis c'est un auteur de française? Est-ce que
c'est... Non, Oksanen, c'est une auteure qui vient de l'Estonie. Okay. Donc, ouais, c'est vraiment littérature scandinave, mais là, on fait pas dans le polar. Là. C'est vraiment plus dans le roman, j'oserais dire, pas historique, mais qui se base sur... qui est entré dans un contexte...
Okay. C'est une traduction à ce moment-là?
Oui, c'est une traduction, okay. Oui.
Donc, c'est une collection qui nous permet de découvrir des auteurs de l'extérieur de la francophonie.
Oui, vraiment, vraiment. Okay. Puis les traductions sont toujours super bien faites aussi. Okay. Moi, j'ai parlé à des gens, admettons, qui avaient dans le milieu où j'étais, là, en librairie, qui parlaient ou qui lisaient la langue, puis qui m'avaient dit oh non, je l'ai relu en français, puis c'est extrêmement bien fait. Puis, okay. Donc, ça, on a quand même l'assurance de la qualité. Ouais, c'est ça. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que encore aujourd'hui, tu sais, ils rééditent des vieux. Des vieux classiques, si on veut, d'auteurs.
Aussi.
Donc, aussi, là, donc on ne fait pas juste la place à la littérature contemporaine, mais tu sais, il y a un bon dosage entre des classiques, puis des fois des textes inédits, des trucs moins connus. Tu sais, l'effort d'édition derrière cette collection-là est vraiment bien. Tu sais, ils vont aller chercher des gens du milieu littéraire. C'est pertinent pour chaque auteur pour faire des préfaces pour je pense que ce sont vraiment des beaux livres.
Okay.
La deuxième maison d'édition dans le fond que j'aurais aimé vous parler, c'est Zulma. Celle-là est beaucoup plus jeune, ça date de 1991. Sur le site internet, ils vont se décrire comme des éditeurs de littérature générale, puis ils vont surtout chercher des romans, de la nouvelle, de l'essai. C'est surtout ce qu'ils vont publier. Et eux se sont fait surtout connaître ces dernières années à cause d'un roman aussi qui a été publié presque en même temps que Purge Sophie Oksanen, qui s'appelle Rosa Candida. Je vais essayer de prononcer le nom, c'est encore un roman scandinave. C'est Odur Rava Olafsdottir.
Ça, c'est l'auteur.
Oui, ça, c'est l'auteur. Et c'est une femme. J'ai toujours pensé que c'était un homme, mais non, c'est une femme. Et ça, voilà, 2 ans, ça a tellement eu de succès en librairie que pendant le temps des fêtes, c'était discontinué partout.
Et le titre, c'est?
C'est Rosa Candida.
Okay, ouais. Le titre va être plus facile peut-être à
oui, Rosa Candida, ça se rappelle vraiment mieux que le nom de l'auteur en tant que tel. Et c'est ça, c'est un roman scandinave. Puis les Zulma, eux autres, ils vont vraiment s'attarder aussi à publier de la littérature étrangère, mais aussi de la littérature française contemporaine.
T'en as ouais, quelques-uns ici. Quelques je les regarde, exemples. Moi, je suis chanceuse, je peux les voir.
Oui, ils sont vraiment de toute beauté.
Ah oui, ils sont superbes.
Pour les auditeurs, si vous voulez reconnaître un Zulma, c'est que souvent, sur la couverture, il y a un triangle inversé, donc l'apex est vers le bas. Où on va voir où il va avoir le titre. Et il y a tout le temps un travail...
C'est comme texturé, hein?
Oui.
C'est comme une tapisserie, on sait pas...
Ils sont vraiment en carton.
Oui.
Puis il y a vraiment tout le temps des designers graphiques, je
oui.
crois, là, qui
ah,
font
oui,
un
oui,
travail
oui.
extraordinaire. Puis ces romans-là, dans le fond... Moi, je lis beaucoup, beaucoup. Puis des fois, à un moment donné, on ne sait plus lire.
Oui.
Pas qu'on ne sait plus lire, mais on ne sait plus quoi lire.
Oui.
On est parfois déçu de ce qui est poussé dans les médias. Bon, il
oui.
y a toujours du lobbying, en tout cas, derrière.
C'est comme partout ailleurs.
C'est comme partout ailleurs. Puis eux ont... le grand avantage, en fait, de ces deux maisons d'édition-là, c'est de permettre vraiment d'aller dans des choses qui sont un peu plus marginales, j'oserais dire. Puis de faire valoir des textes aussi qui ont moins de diffusion ou qui sont moins connus, mais qui sont quand même des petits bijoux, tu sais.
Puis les deux se spécialisent dans la littérature qui n'est pas francophone, dans le fond, qui font des traductions.
Bien, les deux vont publier aussi des romans francophones, français,
okay.
Mais ils font vraiment, vraiment, tu sais, leur mission première, c'est quand même la littérature étrangère. Donc, puis il y a un grand travail qui est fait là-dessus. Juste pour Zulma a une collection de littérature persane, hispano-américaine, indienne, yiddish et hébraïque contemporaine,
c'est quelque chose.
Scandinave, coréenne, chinoise. Ils ont aussi, ils font aussi dans le roman noir érotique les récits de voyage aussi.
C'est une maison qui a commencé en 91, donc ils ne doivent pas avoir des centaines de livres d'édités déjà. Là,
oh, oui. Oui, ça va vite dans le milieu de l'édition quand donc, même.
En 20 ans,
ils ont le temps d'en publier, mais ils ont un très, très beau catalogue. Bon, c'est rien comparé, admettons, à celui de la Cosmopolite qui est là, ça fait tellement longtemps qu'il est peut-être beaucoup plus étoffé. Là. Stock aussi, c'est juste une collection, la Cosmopolite, là, tandis que là, c'est Zulma, c'est la maison d'édition au complet. Là. Mais ouais, c'est vraiment... En tout cas, moi, je conseille beaucoup... Déjà, avec la facture des romans, ça attire l'œil.
Oui, c'est ça.
Mais en plus, c'est... C'est toujours... ça l'ouvre des horizons, tu sais, littéraires. Ça fait connaître des auteurs qu'on ne connaîtrait
différents,
pas.
C'est
ouais,
ça.
Différents.
C'est ça.
Puis moi, en tout cas, quand j'ai envie de lire quelque chose et de ne pas me tromper, souvent, je vais vers ces collections-là parce que je sais que je vais être dépaysée, je vais être amenée ailleurs, je vais vraiment avoir un texte qui est original.
Qui est différent.
Oui, qui est différent. Puis c'est le fun de les faire connaître aussi.
Bien, merci beaucoup, Mylène. On encourage les auditeurs à surveiller ça, à regarder chez vos libraires aussi de livres usagés, sait-on jamais, si vous en trouvez.
Oh oui, ça se trouve, ça se trouve.
Ça va être une belle découverte. Donc, on rappelle les deux maisons, c'est Stock, la collection Cosmopolite,
oui.
Et Zulma.
Oui.
Alors, on va faire une pause musicale. On va écouter la pièce Le Diable d'Amérique de Michel Faubert et on vous revient avec Yolène.
Avez-vous entendu parler d'un médecin qui prescrit un médicament qui rallonge la vie? Avez-vous entendu parler d'un mystérieux psychologue qui sème la zizanie dans l'entourage de ses patients? Avez-vous entendu parler de femmes disparues après avoir dansé avec un inconnu? Avez-vous entendu parler de personnes qui auraient pris feu spontanément et qui se seraient consumées? Avez-vous entendu parler d'une chanson si triste qu'elle pousse au suicide et qui a été interdite? Avez-vous entendu parler du diable d'Amérique? Chanté pour un animal, tel un bœuf ou un chien? Avez-vous entendu parler d'une mouche ensorcelée qu'on dissimule dans le manche d'un outil pour en améliorer le rendement? Avez-vous entendu parler d'un chat qui veut tuer son maître, cette fois par nuit, et s'y ravise? Avez-vous entendu parler du diable d'Amérique? De maisons maudites dont les murs ne peuvent être peints, nettoyés ou tapissés? Avez-vous entendu parler d'un laboureur pétrifié ou enseveli parce qu'il ne pouvait plus s'arrêter? Avez-vous entendu parler d'un moine autostoppeur qu'il faudrait mieux ne jamais faire monter à bord de son véhicule? Avez-vous entendu parler du diable d'Amérique?
Alors, c'était Le Diable d'Amérique de Michel Faubert. Et ça nous permet de présenter notre prochaine invitée, qui est Yolaine.
Bonsoir.
Bonsoir, Yolaine.
Bonsoir.
Alors, toi, tu organises des soirées de contes.
Oui.
Et ça fait. Tu organises des soirées de contes à Québec?
Oui, des soirées de contes à Québec. Vraiment, c'est le seul endroit où on organise. On a deux lieux de diffusion réguliers, mais c'est toujours à Québec. Les soirées sont diffusées. Dans le fond, le nom de l'organisme, c'est Les Amis Imaginaires. Et les deux lieux de diffusion, c'est la Crêperie Bistrot, le Bélic, qui est en face de la librairie, ici, au 526 Saint-Jean. Et il y a aussi la microbrasserie Barberie sur la rue Saint-Roch.
Et Les Amis Imaginaires organisent des contes quand même depuis quelques années?
Oui, quand même, depuis presque 6 ans maintenant.
Et c'est quoi la mission des Amis Imaginaires?
La mission des Amis Imaginaires, c'est d'être un diffuseur de l'art de la parole, puis dans toutes sortes de couleurs, puis de sonorités. Donc, ça veut dire ça, qu'on va diffuser pas seulement du conte traditionnel ou pas seulement du conte contemporain. Ces deux sortes-là, et aussi des contes qui sont peut-être plus atypiques, plus difficiles à catégoriser. Des fois, il y a des conteurs qui vont faire rimer leurs histoires. On se base sur quelque chose de très simple. Est-ce qu'ils sont en train de raconter une histoire?
Et en janvier, donc, qu'est-ce que les Amis Imaginaires vont nous présenter?
En janvier, la première soirée, le troisième mercredi du mois, ce sera à la Barberie. Ça va être avec Arline Thibault, qui va faire du conte contemporain. Elle va faire 40 degrés à l'ombre, les contes d'une canicule. C'est, dans le fond, à l'été 2010, elle a composé ces contes-là suite à la grosse canicule qu'il y a eu ici à Québec. Donc, les contes se passent à Québec. Et c'est tout lié à cette période-là, finalement, qui a réellement existé, mais qui se passe dans un univers complètement fantastique quand Arline le raconte. Ensuite, au Bélic, le 21, on va être avec Wamed Ben Younes et Karine Dubé. Karine Dubé, qui est une musicienne, c'est Wamed qui va raconter les histoires. C'est un conteur du Maghreb, et cette fois-ci, il ne fera pas du conte traditionnel du Maghreb. D'habitude, quand on invite Wamed, c'est du conte traditionnel qu'on a de Kabylie. Cette fois-ci, ils ont créé à deux un univers de contes contemporains aussi, mais c'est des contes un peu sur la migration, vu que Wamed est un immigrant. C'est des contes qui racontent ça, finalement, l'exil, la migration, l'immigration, et toutes sortes d'histoires, finalement, qu'ils ont composées pour l'occasion, accompagnées de musique et de chansons.
Donc, en janvier, on va avoir des contes contemporains. C'est le fun parce qu'on se fait toujours une idée comme quoi les contes, c'est quelque chose de traditionnel. Mais oui. Là, vraiment, en janvier, on va avoir des soirées qui vont être très modernes.
Oui, on plonge vraiment dans le contemporain tout le mois. C'était pas voulu. C'est un add-on, tout simplement. On cherche pas nécessairement à faire une programmation où il va avoir, où on va calculer combien de contemporains, combien de traditionnels. On essaie de varier. Et c'est selon les disponibilités des conteurs. Alors, cette fois-ci, ça a donné comme ça. Ça va être du contemporain, les deux soirées.
Et toi, Yolaine, tu es conteuse?
Oui.
Et tu pourrais un petit peu me parler de ce que tu fais comme conteuse?
Moi, je fais du traditionnel pour l'instant et du conte coquin. Alors, ça va être... je vais piger dans toutes sortes d'univers, toutes sortes de cultures pour les contes traditionnels parce que, de toute façon, les contes voyagent beaucoup. Alors, on va retrouver des fois des histoires qui se ressemblent d'une culture à l'autre. Des fois, je vais les retirer de leur culture et les faire se passer au Québec. Et des fois, je vais les garder dans leur culture d'origine un peu plus si je la connais assez pour en parler, si j'ai assez d'informations, finalement, pour recréer l'univers un peu d'une autre culture. La prochaine fois que je vais m'en aller vers du conte pour de la création, ça va être du conte contemporain parce que je veux apprendre à maîtriser ce genre-là aussi. Et je vais travailler avec Arline Thibault, qui est probablement l'experte à Québec en conte contemporain. Alors, elle va m'aider à mettre ça en place un peu parce que je veux recréer l'univers du quartier Saint-Jean-Baptiste.
Okay.
Arline compte beaucoup Saint-Sauveur.
Excellente idée.
Moi, je vais compter Saint-Jean-Baptiste.
Et c'est quoi tes projets pour les mois qui viennent? Est-ce qu'on va pouvoir t'entendre quelque part?
Probablement à la librairie. Si je termine bientôt, je vais proposer à David, bien sûr, de venir compter mes contes contemporains ici. Pour d'autres contes, ben, ça reste à voir. Je ne sais pas exactement. Des fois, ça se planifie un petit peu à la dernière minute quand je compte parce qu'on a l'avantage de ne pas avoir besoin de beaucoup de matériel. Hein, donc, ça peut être un peu plus spontané que bien d'autres manifestations culturelles, les contes. Mais sinon, pour compter à Québec, j'ai malheureusement pas de date à te donner.
OK.
Sauf que c'est ça. Dans ce dont je m'occupe aussi en tant que diffuseur, ben là, c'est sûr qu'il y a jusqu'au mois de mai les contes à la Barberie et au Bélic. Il y a toujours aussi notre cette collaboration avec l'émission Contes de fées au Studio P qu'on fait. Alors, l'émission Contes de fées, c'est une émission de littérature jeunesse et de contes animée par Olivia Vu à CKRL. Et c'est le samedi de 13h à 14h. Alors, la prochaine fois, ce sera en direct du Studio P. La prochaine fois qu'on fait une collaboration, c'est Wamed avant son spectacle. Donc, l'après-midi qui précède son spectacle au Bélic, le 21, il va être de passage à l'émission d'Olivia. Et ça va être en direct du Studio P sur la rue Saint-Joseph. Donc, on invite les enfants parce qu'en plus, il y a des cupcakes pendant l'émission.
Wow!
Ils peuvent se bourrer la face et écouter des histoires.
Tu me rappelles la date de l'émission, c'est?
Le 21 janvier. La prochaine, c'est sûr que tous les samedis de 13h à 14h sur les ondes de CKRL, il y a l'émission d'Olivia. Mais la prochaine fois qu'on envoie un conteur, nous, pour participer, pour raconter des histoires, c'est le 21. C'est Wamed Ben Younes qui va aller raconter des histoires en direct du Studio P.
Et on rappelle donc que Arline, elle sera au Bélig le 18.
Arline, c'est à la Barberie, le 18, à 19h30. Et Wamed Ben Younes, ce sera le 21 à 13h au Studio P et à 17h, à 17h45 au Bélig.
Je te remercie beaucoup, Yolaine, et j'espère que tu vas venir nous présenter tes contes à la librairie, parce que moi, personnellement, je suis une fan.
Merci.
Et on pourra te réinviter à l'émission pour que tu nous en reparles.
Parfait, merci beaucoup.
Alors, on fait une petite pause musicale. On va écouter Douce France de Charles Trenet, et on revient avec la série La littérature pour comprendre le monde avec Huguette. À tout de suite.
Vient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
C'était donc Douce France de Charles Trenet. On va vous présenter maintenant en deuxième partie de l'émission la série La littérature pour comprendre le monde. C'est une série qui se donne comme objectif d'éclairer la compréhension d'événements historiques par le biais des œuvres qui en ont parlé, ou alors de présenter des œuvres littéraires en les situant dans leur contexte socio-politique. c'est vice-versa, l'un nous permet de comprendre l'autre. Aujourd'hui, en compagnie de Huguette, on va vous parler de la France et de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle à travers deux personnages historiques, deux chansons et deux ouvrages littéraires. Donc, on est à la fin du 19e siècle. La révolution industrielle fait sentir ses effets. Il y a de la migration des campagnes vers les villes. Il y a une concurrence industrielle très peu encadrée, donc exploitation des ouvriers et des enfants. Ce qui fait que les conditions de vie sont difficiles, les problèmes économiques et sociaux sont nombreux. On constate alors un phénomène nouveau que l'on baptisera du joli nom de paupérisation. Et c'est ce qui permet de décrire un nouveau type de pauvreté, celle des travailleurs. C'est une période fort agitée. Les rivalités économiques et coloniales des grandes puissances mènent à une montée des nationalismes qui conduiront éventuellement à la Première Guerre mondiale. Face à la misère des travailleurs, il y a deux mouvements intellectuels qui se dessinent et qui s'affrontent. Il y a d'un côté, carrément, la Révolution, inspirée des idées de Marx, et de l'autre côté, on prêche pour une démocratie républicaine qui pourrait assurer une meilleure justice sociale. Cette dernière idée a été portée par un homme qui s'appelait Jean Jaurès. Jean Jaurès, c'est un homme politique, c'est aussi un philosophe et un humaniste qui fonda le quotidien Humanité en 1904. Jaurès est entré en politique en 1885 comme républicain et il est devenu socialiste après la guerre des mineurs. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que la guerre des mineurs. En 1892, il éclate une grande grève des mineurs de Carmaux. L'origine du conflit, c'est le licenciement de Jean-Baptiste Calvignac. C'était un ouvrier mineur, il était aussi leader syndical et socialiste, et il venait d'être élu maire de Carmaux au mois de mai. Ses obligations d'élu municipal font qu'il doit s'absenter parfois de son travail. Et là, c'est un prétexte que la compagnie des mines choisit pour le licencier. Alors, ce licenciement-là est considéré par les mineurs comme une remise en cause du suffrage universel et des droits réels de la classe ouvrière à s'exprimer en politique. Pour cette raison, les ouvriers se mettent en grève pour protester contre le licenciement de M. Calvignac et pour défendre leur maire. Le président de la France, il s'appelait Sadi Carnot à ce moment-là, il envoie l'armée, 1500 soldats, au nom de la liberté du travail. Tout ce qu'on peut arriver à faire avec la politique.
Rien de moins.
Donc, la République semble bien prendre ainsi le parti du patronat contre les grévistes. À ce moment-là, Jean Jaurès est à l'écart de la vie politique parce qu'il n'a pas été réélu en 1889. On est en 1892 et il est journaliste. Dans ses articles, il soutient la grève aux côtés d'un autre homme célèbre que certains connaissent peut-être, Georges Clémenceau. Il accuse la République d'être aux mains de députés et de ministres capitalistes favorisant la finance et l'industrie aux dépens du respect des personnes. Durant cette grève, Jaurès fait l'apprentissage de la lutte des classes et du socialisme. Lorsqu'il est entré en politique, c'était un intellectuel bourgeois, républicain. Jean Jaurès sort de la grève des Carmaux, acquis au socialisme. Sous la pression de la grève et de Jaurès, le gouvernement arbitre le différend au profit, donc, finalement, de l'ouvrier Calvignac. Le député qui défendait la compagnie donne sa démission et Jaurès est alors désigné par les ouvriers du bassin pour les représenter à la Chambre. Il est élu le 8 janvier 1893 comme socialiste indépendant. Désormais, Jean Jaurès représente à la Chambre les mineurs de Carmaux. Il milite avec ardeur contre le patronat. Surtout, Jaurès se lance dans une incessante et résolue défense des ouvriers en lutte. Huguette, tu nous présentes la prochaine chanson parce qu'il y a Jacques Brel qui a écrit une chanson là-dessus.
Oui, effectivement, Catherine. Alors, c'est la chanson qui s'intitule « Jaurès ». Et cette chanson-là, en plus de présenter un petit peu Jaurès, c'est-à-dire le socialiste, fait très bien le lien avec le livre dont tu vas nous parler par la suite. Là. En tout cas, je ne dirai pas le titre maintenant. Là. Disons que c'est une chanson qui raconte quelle était la vie des pauvres gens là, à l'époque dont on parle. Le travail 15 heures par jour qui les usait précocement et qui ne leur laissait que la religion et l'alcool comme échappatoire. Mm. Alors, c'est une très belle chanson. Écoutons-la. Jaurès de Jacques Brel.
Merci.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes? Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Voilà, c'était Jaurès de Jacques Brel. Donc, Jean Jaurès a défendu les mineurs, mais il a aussi travaillé pour une autre cause. Il a essayé d'empêcher la guerre de 14-18. Il a essayé de conserver la paix. Et il prônait la recherche de solutions pacifiques aux différends avec les Allemands en travaillant avec les socialistes allemands. Et ça, bien, ça lui a valu d'être assassiné à Paris le 31 juillet 1914, la veille de la déclaration de la guerre par l'État allemand. Pour en revenir aux mines, à la grève et aux conditions de travail terribles des mineurs, je veux vous parler d'un roman qui décrit parfaitement bien la réalité du travail dans les mines à cette époque en France, et il s'agit bien sûr de Germinal. On vient de parler de la grève des mineurs de Carmaux. Or, Germinal raconte l'histoire d'une grève dans les mines de Montsou. C'est l'histoire de Étienne Lantier, qui s'est fait renvoyer de son travail pour avoir donné une gifle à son employeur. Chômeur, il part dans le nord de la France à la recherche d'un nouvel emploi. Il se fait embaucher aux mines de Montsou et connaît des conditions de travail absolument effroyables, conditions qui sont en passant tout à fait fidèles à la réalité de l'époque. Étienne est révolté par l'injustice qu'il découvre et par les conditions de vie des mineurs. Il propage assez rapidement des idées révolutionnaires. À un moment, la Compagnie des mines, arguant de la crise économique, décrète une baisse de salaire. Et là, les mineurs se mettent en grève, poussés par les idées révolutionnaires de Étienne. Lorsque la grève éclate, la Compagnie des mines adopte une position très dure et refuse toute négociation. Affamé par des semaines de lutte, le mouvement se durcit. Les grévistes cassent les machines et les installations minières et agressent les bourgeois. Et là, évidemment, on tombe dans le roman, parce que ça, ce ne serait pas véritablement possible dans la vie. Les mineurs n'avaient pas les possibilités de se défendre de cette manière-là. Mais le roman, parce que c'est un roman, permet justement d'imaginer une autre situation. Là, il y a les soldats qui arrivent. Bref, je vous laisse découvrir la suite. Évidemment, il y a des morts, ça devient un roman épique, il y a une histoire d'amour poignante, il y a du sabotage, trahison, la révolte et le courage des opprimés. Et bref, c'est tout l'univers de Zola qui est absolument extraordinaire. Et tout ça, c'est écrit avec la plume d'un des plus grands écrivains de cette période, Émile Zola. Émile Zola a écrit une série de 20 romans appelés « Les Rougon-Macquart ». Germinal, c'est le 13e roman de cette série et ça a été publié en 1885, soit avant la grève de Carmaux, c'est à noter. Émile François Zola, c'est l'un des romanciers français les plus populaires, les plus publiés, traduits et commentés au monde, et il est considéré comme le chef de file du naturalisme. Le naturalisme, qu'est-ce que c'est? Alors, très, très brièvement, je ne vais pas vous donner un cours sur le naturalisme, j'ai pris ça rapidement dans Wikipédia. Le naturalisme est la suite du réalisme en littérature. Le réalisme entendait peindre la réalité de la manière la plus précise possible, y compris dans ses aspects immoraux ou vulgaires. Le naturalisme poursuit cette idée, mais en ajoutant un contexte physiologique et en montrant que le milieu où vit le protagoniste est l'une des raisons principales de son comportement. Le naturalisme est le reflet de la réalité. Il s'intéresse autant à la bourgeoisie qu'aux individus pauvres, comme les ouvriers ou les prostituées. Moi, je dirais que c'est une approche sociologique, mais ça c'est moi. L'œuvre principale de Zola, Les Rougon-Macquart, comprend donc 20 romans. Chacun décrit spécifiquement un milieu et une classe de la société française de la fin du 19e siècle. Et c'est décrit avec une justesse puis une précision telle que, si vous lisez Les Rougon-Macquart, vous connaîtrez la société française de la fin du 19e presque aussi bien que si vous y aviez vécu. Évidemment, tout le monde n'est pas aussi fou que moi pour lire les 20 romans d'affilée, mais si vous lisez Germinal, ne serait-ce que pour connaître ce qu'est un roman naturaliste, bien, vous pourrez aussi connaître les conditions de vie des ouvriers dans les mines au début du dernier siècle. On parle beaucoup des mines en ce moment au Québec, avec le plan Nord et avec les gaz de schiste. Alors, pour moi, ça me semble assez pertinent de savoir d'où, comment ça a commencé les conditions de travail dans les mines. Et puis, si ça vous plaît, bien, vous pourrez en essayer un autre. Tous les romans de la série des Rougon-Macquart sont intéressants. Ils sont tous très différents les uns des autres puisqu'ils portent chacun sur un aspect spécifique de la société française de la fin du 19e. Donc, on vous a parlé du premier personnage historique, de l'œuvre littéraire qui s'y rapporte, Jean Jaurès, Germinal, d'Émile Zola. Il n'y a pas que la grève des mineurs de Carmaux qui remit Émile Zola et Jean Jaurès, car ils ont défendu ensemble une cause célèbre, un événement très important qui s'est déroulé dans les mêmes années en France, soit à la fin du 19e siècle. Il s'agit de l'affaire Dreyfus. Huguette, tu peux nous présenter la prochaine chanson?
Oui, il s'agit d'une chanson qui est composée et interprétée par Yves Dutheil et qui brosse un portrait touchant de ce que fut l'affaire Dreyfus. C'est une chanson très forte, d'autant plus quand on sait que Yves Dutheil était le petit-neveu du capitaine Dreyfus. Alors, la chanson s'intitule tout simplement « Dreyfus ». On l'écoute.
Je suis un peu ton fils et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane. et je souffre avec toi des fers que l'on t'a mis pour écraser ton âme et pour briser ta vie. Mais pourquoi fallait-il, pour t'envoyer au diable, te prendre dans les fils de ce piège effroyable? J'ai vu souvent mon père s'assombrir tout à coup quand j'évoquais l'affaire, comme on disait chez nous. Et j'ai vécu longtemps sans rompre ce silence, comme un secret pesant parfois sur la conscience. J'imaginais comment des hommes étaient capables d'arrêter l'innocent pour en faire un coupable. Il était alsacien, français, juif, capitaine, vivait parmi les siens à Paris 17e. Quand un matin d'octobre, on l'accuse, on l'emmène vers 12 ans de méprise et d'opprobre et de haine. Traité plus bas qu'un chien, laissé dans l'ignorance de tous ceux qui sans fin luttaient pour sa défense. Courageux, opiniâtres, jouant parfois leur vie sur un coup de théâtre en s'exposant pour lui. Je suis un peu son fils et c'est moi que l'on traîne au palais d'injustice en l'écoutant à peine. Et quand Paris s'enflamme alors qu'on l'injurie, le coupable pavane à quatre pas d'ici. Lucie, mon corps est à genoux, mais mon âme est debout. Un jour je reviendrai vers la terre de France, crier mon innocence et retrouver la paix. Ici, je n'ai plus rien de toi, et j'ai peur quelquefois que ma raison s'égare. Si je perds la mémoire, si j'oublie qui je suis, qui pourra dire alors à ceux qui m'aiment encore que je n'ai pas trahi, que j'ai toujours porté l'amour de mon pays bien plus haut que ma vie, bien plus haut que la vie. C'était il y a 100 ans, Dreyfus est mort depuis, mais je porte en chantant tout l'espoir de sa vie. Pour la mémoire des jours, puisqu'en son paradis, on sait depuis toujours qu'il n'a jamais trahi. Il n'a jamais trahi son cœur ni son pays.
C'était une chanson de Yves Dutheil qui parlait de Alfred Dreyfus, officier français d'origine juive, accusé de trahison. On est en 1894 en France. C'était l'ennemi parfait. Il faisait l'unanimité pour tout le monde. Il était coupable. Il y a une parole talmudique qui est citée par Lévinas que je lisais aujourd'hui et que je trouve tout à fait appropriée. Si tout le monde est d'accord pour condamner un individu, libérez-le. Il doit être innocent. Alors, ça s'applique parfaitement à l'affaire Dreyfus, cette citation-là. Parce que l'affaire Dreyfus, c'est le symbole moderne et universel de l'iniquité au nom de la raison d'État et reste l'un des exemples les plus marquants d'une erreur judiciaire difficilement réparée, avec un rôle majeur joué par la presse et l'opinion publique. Et c'est ce qui nous intéresse ici, c'est le rôle qu'a joué la presse et l'opinion publique pour faire triompher la vérité. Alors, rapidement quand même, je vais rappeler ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Alfred Dreyfus est un officier français d'état-major général d'origine juive, accusé à tort d'avoir livré des documents secrets à l'attaché militaire allemand en poste à Paris à l'automne 1894. Après une enquête à charge et sous la pression d'une importante campagne de presse à caractère antisémite, le capitaine Dreyfus est condamné à l'emprisonnement à perpétuité dans une enceinte fortifiée. Huguette, tu peux me parler un petit peu de l'antisémitisme qui sévissait en France à cette époque-là?
Oui, en effet, Catherine, dans un livre qui s'appelle « L'affaire Dreyfus », qui est écrit par Pierre-Robert Leclerc, qui est un historien, il parle justement de que la presse s'est déchaînée contre les Juifs, et j'aimerais ça t'en lire un paragraphe qui va illustrer ce propos-là. Alors, on dit « Tandis que le procès se prépare, la presse se déchaîne. La haine du Juif et de l'Allemagne est sa provende. En tête d'une campagne qui exige qu'il n'y ait pas d'officiers juifs dans l'armée, la Libre Parole, c'est un journal, et je cite, « Juif de race, Dreyfus a fait œuvre d'Allemands et de Juifs. » Et un autre journal qui s'appelle « La Croix, dans toute vilaine affaire, il n'y a que des Juifs. Rien de plus facile que d'opérer un bon nettoyage. » La juiverie constitue un chancre affreux. Et pourquoi ne pas aller plus loin dans l'exclusion? On fait la recension des journalistes, professeurs et fonctionnaires juifs qui baragouinent à peine notre langue. Alors, ça donne un petit peu un aperçu là, de quel était l'esprit de l'époque là, au niveau de l'antisémitisme.
En effet, on est donc trop content de condamner le capitaine Dreyfus à perpétuité. Il est dégradé publiquement. Il est expédié sur l'île du Diable en Guyane française. Là, sa famille commence à organiser sa défense. Peu à peu, les informations s'accumulent à propos d'irrégularités graves dans l'instruction et le procès. Le véritable traître est finalement officiellement identifié. En novembre 1897, c'est le commandant Walsin Esterhazy. Devant le risque d'une contestation populaire et d'un retour de l'affaire sur le devant de la scène, les militaires qui ont fait condamner Dreyfus s'organisent afin que leur irrégularité ne soit pas exposée publiquement. Pourtant, le lieutenant-colonel Georges Picard, chef du service des renseignements militaires, avait découvert l'identité du véritable traître dès 1896, soit un an avant. Dreyfus devenait gênant. Il pouvait parler. Pas Dreyfus, c'est-à-dire Picard, Georges Picard, le chef du service des renseignements, il devenait gênant. Il pouvait parler. Il est limogé par l'état-major, qui se livre à des manœuvres de protection du véritable coupable dans le but de maintenir coûte que goûte Dreyfus au bagne. Ici, Huguette, je pense que tu nous as aussi des exemples de manœuvres que les forces militaires vont faire.
Oui, tout à fait. Je vais te lire un autre extrait là, du même volume. Alors, on dit « Pour l'état-major, il ne saurait être question d'ouvrir à nouveau le dossier. Reconnaître l'innocence de Dreyfus, c'est avouer les irrégularités du procès, mettre en cause le ministère et les officiers de tout grade qui ont mené l'enquête, déshonorer l'armée. Peu après, l'on voit d'où elle peut venir, une rumeur commence à courir qui peut mettre le point final au discours de ceux qui doutent de la culpabilité de Dreyfus. » Cette culpabilité est d'autant plus évidente, dit la rumeur, qu'entre la cour de l'école militaire où il fut dégradé et son retour à la prison, il l'a lui-même reconnu. Il a avoué son crime au capitaine Lebrun Renaud, officier de la garde républicaine. Alors, évidemment, c'est faux, mais on fait circuler cette rumeur-là pour éviter d'aller en révision de procès.
C'est la fabrication de fausses preuves.
Il y a exactement aussi une fabrication de fausses preuves parce que le commandant Picard, qui a repris le poste là, du service de renseignement, a consulté le dossier secret et a trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose dans le dossier, en effet. Puis il a trouvé une lettre dans laquelle on mentionne, attends un petit peu, là, qu'il y avait une canaille de D qui a donné des renseignements militaires. Alors, dès que tout de suite, on s'est dit c'est Dreyfus, alors que par après, ça a été prouvé que c'était un nommé Dubois. Et on a fait paraître cette lettre-là dans le journal L'Éclair. Okay. Et là, on a dit, on a carrément dit que c'était Dreyfus. Alors, on a faussé le document, là, qu'il ne le mentionnait pas du tout.
Donc, à la fin de l'année 1897, le cercle des Dreyfusards, malgré tout, s'élargit. Les Dreyfusards, ce sont ceux qui défendent Alfred Dreyfus. Le vice-président du Sénat décide de prendre fait et cause pour Alfred Dreyfus. Il commence à avoir des amis assez importants dans sa cause. De proche en proche, ces rumeurs atteignent Émile Zola, jusque-là totalement étranger à l'affaire Dreyfus. Zola publie quelques articles, sans effet majeur, mais la rumeur enfle. L'état-major de l'armée décide en retour de faire comparaître le commandant Esterhazy, qui, vous vous rappelez, est le véritable coupable, en conseil de guerre. Et il est acquitté à l'unanimité le 11 janvier 1898. Ça, c'est un événement qui a vraiment révolté Émile Zola. Et là, lui, il décide de frapper fort. Au travers d'un pamphlet contestant cette décision de justice au nom de valeurs universelles, l'écrivain décide de s'exposer publiquement afin de comparaître aux assises pour qu'un nouveau procès plus indépendant puisse se dérouler. Par des accusations publiques et nominatives de 10 acteurs de l'affaire Dreyfus, le romancier sait qu'il se met sous le coup de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet. C'est-à-dire, ça, c'est cette loi-là dit que la diffamation d'un fonctionnaire de l'État relève des assises. Donc, il peut être tenu à procès. Par là, Zola compte refaire le procès Dreyfus, mais jugé cette fois par un jury populaire indépendant du pouvoir militaire. J'accuse, et l'œuvre littéraire dont nous allons vous parler, c'est le titre d'un article rédigé par Émile Zola lors de l'affaire Dreyfus. C'est publié dans le journal L'Aurore le 13 janvier 1898 sous la forme d'une lettre ouverte au président de la République française. Le texte est maintenant publié sous forme de livre. On va vous en reparler tout à l'heure. En 1898, donc, Émile Zola, c'est un écrivain qui est au sommet de la gloire. Il est décoré de la Légion d'honneur. Il préside la Société des gens de lettres. Il a déjà achevé son cycle romanesque des 20 romans de Rougon-Macquart. Et il termine à ce moment-là un triptyque, Les Trois Villes. Il est à l'abri du besoin. Il est même à la tête d'une petite fortune. Il n'a absolument rien à prouver et surtout rien à gagner dans cet engagement. Et pourtant, il s'engage tellement que l'affaire Dreyfus est en train de devenir l'affaire Zola.
Effectivement, Catherine, Zola sera cité en procès. Et même s'il a convaincu quand même beaucoup de gens là, du fait que Dreyfus n'était pas coupable, bien, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre Dreyfus, alors ils se sont montrés également contre Zola. Et je vais vous lire un autre extrait du volume où on parle du procès, justement, et comment on pouvait traiter Zola dans le public aussi. Alors, c'est comme ceci. Le procès s'ouvre le 7 février 1898. Il durera 15 séances. Déjà à la fin de la première, Dreyfusard et anti-Dreyfusard se coltent dans les couloirs, dans la rue. Le préfet de police doit personnellement protéger Zola des hommes de main de Jules Guérin, un ancien industriel aux multiples escroqueries, fondateur de la Ligue antisémitique. Toujours prêt à déclencher une émeute, il entraîne la foule et là encore, dans l'échange des coups, elle chante « Zola est un gros cochon. Plus il devient vieux, plus il devient bête. Zola est un gros cochon. Quand on l'attrapera, nous le flamberons. »
Ça nous fait penser à une autre chanson qu'on connaît.
Exactement, une autre chanson de Jacques Brel. Je pense qu'on voit d'où il a pris son inspiration. « C'est la noble colère du peuple, écrit La Libre Parole, le journal La Libre Parole, approuvant ce peuple de vouloir noyer et retirer les Juifs, une obsession encore que cela doit sentir bigrement mauvais le youpin grillé. » Alors, on voit que l'antisémitisme était déjà très, très implanté et on voit que qu'est-ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale était déjà dans les esprits au début du 20e siècle.
Tout à fait. Et donc, malgré toute cette hargne contre lui, Émile Zola a tenu bon. Et on va donc parler de l'œuvre littéraire « J'accuse ». « J'accuse », ça représente le symbole de l'éloquence oratoire et du pouvoir de la presse mis au service de la défense d'un homme et de la vérité. Mais c'est aussi le texte d'un écrivain, une vision de romancier qui transforme les acteurs du drame en personnages de roman. Pour son article, Zola opte pour un plan simple. L'objectif de l'écrivain est de faire comprendre l'écheveau de l'affaire Dreyfus de la manière la plus lumineuse possible. Alors Zola explique d'abord dans son introduction les ressorts initiaux de l'erreur judiciaire, qu'il qualifie d'implacable, d'inhumaine. Il justifie aussi la forme de son message en une lettre ouverte au président de la République. Donc, dans sa première partie, il use du procédé du flashback, transportant le lecteur 3 ans auparavant à l'automne 1894. On assiste aux différentes procédures judiciaires contre Alfred Dreyfus, de son arrestation à sa condamnation. Dans la seconde partie, le romancier explique les conditions de la découverte du véritable coupable, Ferdinand Esterhazy. La troisième partie est consacrée à la collusion des pouvoirs publics afin de protéger le véritable traître en l'acquittant lors du conseil de guerre du 11 janvier. Le double crime est consommé. condamnation d'un innocent, acquittement d'un coupable. Il reste à Zola, en conclusion, à asséner ses accusations nominatives contre les hommes qu'il considère comme responsables du crime par une litanie faite de la répétition de la formule « J'accuse ». Évidemment, ça a été une surprise pour ses contemporains, étonnés de lire une telle violence, un engagement aussi clair sans aucun équivoque, mais aussi une telle exposition au danger sous la plume d'un écrivain jusqu'ici rangé, estimé et tranquille. Il faut dire aussi que pour ses contemporains, le grand intérêt de l'article de Zola réside dans le résumé consolidé des différents événements constituant les quatre premières années de l'affaire Dreyfus, auxquelles le lecteur accède pour la première fois. Zola leur raconte l'histoire complète. Il faut en effet se mettre à la place du lecteur de l'affaire Dreyfus qui lit ça et là et par petits bouts dans les journaux le déroulement de ce feuilleton à ressort compliqué et sur une durée de 4 ans. Et comme la presse cherche le scoop et les rebondissements fort nombreux, il y a des détails sans importance qui sont discutés par le menu au détriment de la vision globale du récit. L'écrivain remet donc les pendules à l'heure en livrant un récit entier basé sur la documentation dont il dispose à ce moment-là. Alors moi, ça me fait rêver. Quand on entend tout ce qu'il dit en ce moment dans les médias, par petits bouts, justement, à gauche, à droite, on ne sait plus qui croire, on ne sait plus à qui se fier. Le détail devient le sujet et on juge le tout sur la partie. À cette époque-là, il y a eu un intellectuel pour se lever et pour prendre la peine de refaire toute l'histoire puis de nous livrer ça et en plus de nous le livrer comme si c'était un roman de manière intéressante. Il y aura une conclusion à l'affaire Dreyfus, Huguette?
Oui, effectivement. Avec son pamphlet « J'accuse », Zola a réussi à convaincre quand même suffisamment de gens. Évidemment, il n'était pas seul là-dedans non plus, là, mais pour amener une révision du procès. Alors, il y avait déjà eu une première révision du procès en 1899. Mais à ce moment-là, Dreyfus avait été, sa peine avait été changée pour une condamnation, un emprisonnement de 10 ans, parce qu'on trouvait qu'il y avait des circonstances atténuantes, alors qu'on savait très bien qu'il n'était pas coupable. Et il y a eu une deuxième révision suite à l'affaire J'accuse, au texte J'accuse, qui a eu lieu en 1906. Et là, la Cour a cassé le dernier jugement et Dreyfus a été libéré et réhabilité avec un grade supérieur et on lui a remis la Légion d'honneur. Alors, ça a pris tout ce temps-là, avant que la vérité soit vraiment reconnue.
Et il y a eu aussi des conséquences à l'affaire Dreyfus.
Oui, suite à ça, évidemment, il y a eu des conséquences... Qui ont eu lieu sur plusieurs années. Le 29 septembre 1902, Émile Zola est mort et on croit qu'il a été empoisonné parce qu'on avait introduit un boulet dans sa cheminée et la nuit il a fait du feu et puis ils se sont endormis et puis ils se sont intoxiqués là, par les gaz et ça a été démontré là, que c'est un assassinat finalement. Et il y a eu aussi, le 4 juin 1908, lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon, Alfred Dreyfus assistait à la cérémonie. Et là, il y a un journaliste qui a tiré sur Dreyfus. Il l'a atteint au bras de 2 balles. Et enfin, en 1931, en avril 1931, il y a eu une bataille sanglante au théâtre de l'Ambigu. Qui présentait une pièce de 2 auteurs allemands et le titre de cette pièce-là, c'était « L'affaire Dreyfus ». Donc, on est rendu en 1931, les répercussions se sont étalées sur plusieurs années.
Moi, je vais terminer sur des conséquences positives de l'affaire Dreyfus. D'abord, première conséquence, c'est l'engagement des intellectuels. Un homme de lettres s'engage résolument dans un combat pour la justice politique et sociale. Et il y a de nombreux intellectuels qui l'ont suivi, qui ont suivi son exemple. Et le rôle des intellectuels dans une société civile, c'est de première importance. On l'a découvert à ce moment-là. On a aussi découvert le quatrième pouvoir. Gagnant en puissance depuis une vingtaine d'années à l'époque, la presse populaire et d'opinion franchit un nouveau cap avec J'accuse, s'imposant désormais contre un contre-pouvoir à part entière, s'exprimer, se mobiliser, et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est le quatrième pouvoir et on peut toujours l'utiliser. Alors, je vais conclure là-dessus en vous recommandant la lecture de J'accuse, mais si vous voulez aller chercher le livre, plutôt que de prendre juste le petit pamphlet J'accuse, qui est quand même assez mince, on suggère une édition ainsi que Huguette à consulter.
Oui, alors ça s'appelle L'affaire Dreyfus, suivi de J'accuse, Émile Zola, et c'est écrit par Pierre-Robert Leclerc, et c'est aux éditions, je vous dis ça, là, aux éditions du Rocher. Alors, le livre de Pierre-Robert Leclerc, en fait, est une préface au J'accuse de Zola. Et ça vaut vraiment la peine de lire ça parce que le pamphlet J'accuse était très clair pour les gens de l'époque. Mais pour nous, on nomme des personnages, puis il manque peut-être certains détails. Oui. Alors, le livre de Pierre-Robert Leclerc, qui est un historien, lui replace tout ça dans son contexte et on comprend très bien l'évolution là, de la situation. Alors, comme tu dis, Catherine, au lieu de se limiter aux J'accuse de Zola, c'est une bonne lecture là, à faire, l'affaire Dreyfus de Pierre-Robert Leclerc.
Merci beaucoup, Huguette. On va faire une petite pause et on va revenir avec une lecture de David. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates at the long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, a give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. That the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact.
the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. Cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes.
Besoin de consolation est impossible à rassasier. De Stieg Dagerman. Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux, car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni en celui qui cultive son doute, comme si celui-ci n'était pas, lui aussi, entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même, car je suis bien certain d'une chose, le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir dans la forêt, je tire. Souvent je n'atteins que le vide, mais une fois, de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime. Qu'ai-je alors entre les bras? Puisque je suis solitaire, une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux. Puisque je suis poète, un arc de mots que je ressens de la joie et de l'effroi à bander. Puisque je suis prisonnier, un aperçu soudain de la liberté. Puisque je suis menacé par la mort, un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique. Puisque je suis menacé par la mer, un récif de granit bien dur. Mais il y a aussi des consolations qui viennent à moi sans y être conviées et qui remplissent ma chambre de chuchotements odieux. Je suis ton plaisir, aime-les tous. Je suis ton talent, fais-en aussi mauvais usage que de toi-même. Je suis ton désir de jouissance, seuls vivent les gourmets. Je suis ta solitude, méprise les hommes. Je suis ton aspiration à la mort, alors tranche. Le fil du rasoir est bien étroit. Je vois ma vie menacée par deux périls. D'un côté, par les bouches avides de la gourmandise. De l'autre, par l'amertume de l'avarice qui se nourrit d'elle-même. Mais je tiens à refuser de choisir entre l'orgie et l'abcèse, même si je dois, pour cela, subir le supplice du grill de mes désirs. Pour moi, il ne suffit pas de savoir que, puisque nous ne sommes pas libres de nos actes, tout est excusable. Ce que je cherche, ce n'est pas une excuse à ma vie, mais exactement le contraire d'une excuse, le pardon. L'idée me vient finalement que toute consolation, ne prenant pas en compte ma liberté, est trompeuse, qu'elle n'est que l'image réfléchie de mon désespoir. En effet, lorsque mon désespoir me dit « Perds confiance, car chaque jour n'est qu'une trêve entre deux nuits », la fausse consolation me crie « Espère, car chaque jour, car chaque nuit, pardon, n'est qu'une trêve entre deux jours. » mais l'humanité n'a que faire de consolation en forme de mots d'esprit. Elle a besoin d'une consolation qui illumine. Et celui qui souhaite devenir mauvais, c'est-à-dire devenir un homme qui agisse comme si toutes les actions étaient défendables, doit au moins avoir la bonté de le remarquer lorsqu'il y parvient. Personne ne peut énumérer tous les cas où la consolation est une nécessité. Personne ne sait quand tombera le crépuscule et la vie n'est pas un problème qui puisse être résolu en divisant la lumière par l'obscurité et les jours par les nuits. C'est un voyage imprévisible entre des lieux qui n'existent pas. Je peux, par exemple, marcher sur le rivage et ressentir tout à coup le défi effroyable que l'éternité lance à mon existence dans le mouvement perpétuel de la mer et dans la fuite perpétuelle du vent. Que devient alors le temps si ce n'est une consolation pour le fait que rien de ce qui est humain ne dure? Et quelle misérable consolation qui n'enrichit que les Suisses! Je peux rester assis devant un feu dans la pièce la moins exposée de toutes au danger et sentir soudain la mort me cerner. Elle se trouve dans le feu, dans tous les objets pointus qui m'entourent, dans le poids du toit et dans la masse des murs. Elle se trouve dans l'eau, dans la neige, dans la chaleur et dans mon sang. Que devient alors le sentiment humain de sécurité si ce n'est une consolation pour le fait que la mort est ce qu'il y a de plus proche de la vie? Et quelle misérable consolation qui ne fait que nous rappeler ce qu'elle veut nous faire oublier. Je peux remplir toutes mes pages blanches avec les plus belles combinaisons de mots que puisse imaginer mon cerveau. Étant donné que je cherche à m'assurer que ma vie n'est pas absurde et que je ne suis pas seul sur la terre, je rassemble tous ces mots en un livre et je l'offre au monde. En retour, celui-ci me donne la richesse, la gloire et le silence. Mais que puis-je bien faire de cet argent, et quel plaisir puis-je prendre à contribuer au progrès de la littérature? Je ne désire que ce que je n'aurai pas, confirmation de ce que mes mots ont touché le cœur du monde. Que devient alors mon talent, si ce n'est une consolation pour le fait que je suis seul? Mais quelle épouvantable consolation qui me fait simplement ressentir ma solitude 5 fois plus fort! Je peux voir la liberté incarnée dans un animal qui traverse rapidement une clairière et entendre une voix qui chuchote « Vis simplement, prends ce que tu désires et n'aie pas peur des lois. » Mais qu'est-ce que ce bon conseil si ce n'est une consolation pour le fait que la liberté n'existe pas? Et quelle impitoyable consolation pour celui qui s'avise que l'être humain doit mettre des millions d'années à devenir un lézard. Pour finir, je peux m'apercevoir que cette terre est une fosse commune dans laquelle le roi seul Salomon, Ophélie et Himmler se reposent côte à côte. Je peux en conclure que le bourreau et la malheureuse jouissent de la même mort que le sage et que la mort peut nous faire l'effet d'une consolation pour une vie manquée. Mais quelle atroce consolation pour celui qui voudrait voir dans la vie une consolation pour la mort. Je ne possède pas de philosophie dans laquelle je puisse me mouvoir, comme le poisson dans l'eau ou l'oiseau dans le ciel. Tout ce que je possède est un duel, et ce duel se livre à chaque minute de ma vie entre les fausses consolations qui ne font qu'accroître mon impuissance et rendre plus profond mon désespoir, et les vraies qui me mènent vers une libération temporaire. Je devrais peut-être dire la vraie, car, à la vérité, il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle, celle qui me dit que je suis un homme libre, un individu inviolable, un être souverain à l'intérieur de ses limites. Ma liberté commence par l'esclavage et la souveraineté par la dépendance. Le signe le plus certain de ma servitude est ma peur de vivre. Le signe définitif de ma liberté est le fait que ma peur laisse la place à la joie tranquille de l'indépendance. On dirait que j'ai besoin de la dépendance pour pouvoir finalement connaître la consolation d'être un homme libre, et c'est certainement vrai. À la lumière de mes actes, je m'aperçois que toute ma vie semble n'avoir eu pour but que de faire mon propre malheur. Ce qui devrait m'apporter la liberté m'apporte l'esclavage et les pierres en guise de pain. Les autres hommes ont d'autres maîtres. En ce qui me concerne, mon talent me rend esclave, au point de ne pas oser l'employer, de peur de l'avoir perdu. De plus, je suis tellement l'esclave de mon nom que j'ose à peine écrire une ligne, de peur de lui nuire. Et lorsque la dépression arrive finalement, je suis aussi son esclave. Mon plus grand désir est de la retenir, mon plus grand plaisir est de sentir que tout ce que je valais résidait dans ce que je crois avoir perdu. la capacité de créer de la beauté à partir de mon désespoir, de mon dégoût et de mes faiblesses. Avec une joie amère, je désire voir mes maisons tomber en ruine et me voir moi-même enseveli sous la neige de l'oubli. Mais la dépression est une poupée russe, et dans la dernière poupée se trouve un couteau, une lame de rasoir, un poison, une eau profonde et un seau dans un grand trou. Je finis par devenir l'esclave de tous ces instruments de mort. Ils me suivent comme des chiens, à moins que le chien, ce ne soit moi. Et il me semble comprendre que le suicide est la seule preuve de la liberté humaine. Mais venant d'une direction que je ne soupçonne pas encore, voici que s'approche le miracle de la libération. Cela peut se produire sur le rivage, et la même éternité qui, tout à l'heure, suscitait mon effroi, est maintenant le témoin de mon ascension à la liberté. En quoi consiste donc ce miracle? Tout simplement dans la découverte soudaine que personne, aucune puissance, aucun être humain, n'a le droit d'énoncer envers moi des exigences telles que mon désir de vivre viennent à s'étioler. Car si ce désir n'existe pas, qu'est-ce qui peut alors exister? Puisque je suis au bord de la mer, je peux apprendre de la mer. Personne n'a le droit d'exiger de la mer qu'elle porte tous les bateaux ou du vent qu'il gonfle perpétuellement toutes les voiles. De même, personne n'a le droit d'exiger de moi que ma vie consiste à être prisonnier de certaines fonctions. Pour moi, ce n'est pas le devoir avant tout, mais la vie avant tout. Tout comme les autres hommes, je dois avoir droit à des moments où je puisse faire un pas de côté et sentir que je ne suis pas seulement une partie de cette masse que l'on appelle la population du globe, mais aussi une unité autonome. Ce n'est qu'en un tel instant que je peux être libre vis-à-vis de tous les faits de la vie qui, auparavant, ont causé mon désespoir. Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se soucie peu de moi. Mais qui me demande de me soucier de l'éternité? Ma vie n'est courte que si je la place sur le billot du temps. Les possibilités de ma vie ne sont limitées que si je compte le nombre de mots ou le nombre de livres auxquels j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir. Mais qui me demande de compter? Le temps n'est pas l'étalon qui convient à la vie. Au fond, le temps est un instrument de mesure sans valeur, car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie. Mais tout ce qui arrive d'important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu, la rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau, une aide au moment critique, le spectacle du clair de lune, une promenade en mer à la voile, la joie que l'on donne à un enfant, le frisson devant la beauté, tout cela se déroule totalement en dehors du temps. Car peu importe que je rencontre la beauté l'espace d'une seconde ou l'espace de 100 ans, non seulement la félicité se situe en marge du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. Mais tout ce qui m'arrive d'important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu, la rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau, une aide au moment critique, le spectacle du clair de lune, une promenade en mer à la voile, la joie que l'on donne à un enfant, le frisson devant la beauté, tout cela se déroule totalement en dehors du temps. Car peu importe que je rencontre la beauté l'espace d'une seconde ou l'espace de 100 ans, non seulement la félicité se situe en marge du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. Je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps et, par la même occasion, celui des performances que l'on exige de moi. Ma vie n'est pas quelque chose que l'on doive mesurer. Ni le saut du cabri, ni le lever du soleil ne sont des performances. Une vie humaine n'est pas non plus une performance, mais quelque chose qui grandit et cherche à atteindre la perfection. Et ce qui est parfait n'accomplit pas de performance. Ce qui est parfait œuvre en état de repos. Il est absurde de prétendre que la mer soit faite pour porter des armadas et des dauphins. Certes, elle le fait, mais en conservant sa liberté. Il est également absurde de prétendre que l'homme soit fait pour autre chose que pour vivre. Certes, il approvisionne des machines et il écrit des livres, mais il pourrait tout aussi bien faire autre chose. L'important est qu'il fasse ce qu'il fait en toute liberté et en pleine conscience de ce que, comme tout autre détail de la création, il est une fin en soi. Il repose en lui-même, comme une pierre sur le sable. Je peux même m'affranchir du pouvoir de la mort. Il est vrai que je ne peux me libérer de l'idée que la mort marche sur mes talons et encore moins nier sa réalité. mais je peux réduire à néant la menace qu'elle constitue en me dispensant d'accrocher ma vie à des points d'appui aussi précaires que le temps et la gloire. Par contre, il n'est pas en mon pouvoir de rester perpétuellement tourné vers la mer et de comparer sa liberté avec la mienne. Le moment arrivera où je devrai me retourner vers la terre et faire face aux organisateurs de l'oppression dont je suis victime. Ce que je serai alors contraint de reconnaître, c'est que l'homme a donné à sa vie des formes qui, au moins en apparence, sont plus fortes que lui. Même avec ma liberté toute récente, je ne puis les briser, je ne puis que soupirer sous leur poids. Par contre, parmi les exigences qui pèsent sur l'homme, je peux voir lesquelles sont absurdes et lesquelles sont inéluctables. Selon moi, une sorte de liberté est perdue pour toujours ou pour longtemps. C'est la liberté qui vient de la capacité de posséder son propre élément. Le poisson possède le sien, de même que l'oiseau et que l'animal terrestre. Thoreau avait encore la forêt de Walden, mais où est maintenant la forêt où l'être humain puisse prouver qu'il est possible de vivre en liberté, en dehors des formes figées de la société? Je suis obligé de répondre nulle part. Si je veux vivre libre, il faut, pour l'instant, que je le fasse à l'intérieur de ces formes. Le monde est donc plus fort que moi. À son pouvoir, je n'ai rien à opposer que moi-même, mais d'un autre côté, c'est considérable. Car tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance, et mon pouvoir est redoutable tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde. Car celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Mais ma puissance ne connaîtra plus de bornes le jour où je n'aurai plus mon silence pour défendre mon inviolabilité, car aucune hache ne peut avoir de prise sur le silence vivant. Telle est ma seule consolation. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes, mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige. Une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie, c'est-à-dire une raison de vivre. Achevé en 1952.
Et voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de l'émission La Voix de la librairie. Je tiens à remercier d'abord Gab Paquette pour la composition du thème musical de l'émission, notre hôte David, qui nous accueille chaque premier lundi du mois dans sa librairie située au 565 rue Saint-Jean à Québec. Je remercie notre chroniqueuse Mylène, qui reviendra le mois prochain avec un nouveau sujet touchant les livres ou l'édition. Je remercie aussi nos invités de la semaine, Adam Pic, photographe, dont vous pourrez voir les œuvres durant tout le mois à la librairie. Je remercie Yolaine, qui nous a présenté des soirées de contes des amis imaginaires. Je remercie Huguette Dugas, ma collaboratrice du mois à la série « La littérature pour comprendre le monde ». À la technique, Rémi Bourdillon. Et finalement, merci à Big Nick, sans qui rien ne serait possible, car c'est bien lui qui nous accueille sur le site web de Radio Fiat Lux. Merci. Notre prochaine rencontre sera le 6 février. Oh.